toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez...
No problemo!
Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève.
Il sait qu'il y a pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
De réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il doit y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Attendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Voilà, 19h passées de 40 secondes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info du jeudi, comme presque toutes les semaines. Et oui, on a eu un... On t'entendait pas, oui.
Ah, je disais donc, ça va être la fin de la saison, puisque c'est l'avant-dernière émission de cette saison 2016-2017. La semaine prochaine, on peut vous le dire dès maintenant, on se retrouvera pour une émission spéciale puisqu'on vous parlera des rencontres de la photographie de Arles, puisque nous allons y faire un petit tour.
Effectivement, en attendant, cette semaine nous ferons un Canu Info normal et je vais commencer en cette veille de 14 juillet de parler de Emmanuel. Vous savez, Emmanuel Ier, le nouvel empereur de France.
Jupiter.
Le nouveau monarque jupitérien, s'il en est, effectivement. Alors, effectivement, on imaginait plutôt Emmanuel Macron du côté de la droite libérale à faire essentiellement de la casse sociale et du mépris de classe. Mais on le découvre aussi dans un autre domaine, plus surprenant, avec des idées plus proches de l'extrême droite et des nationalistes. Ainsi, quelques propos racistes ont émaillé certaines de ses dernières interventions. On se rappelle sa mauvaise plaisanterie sur le sort des Kwassa-Kwassa, ces frêles embarcations qui, pour citer M. Macron, pêchent peu mais amènent du Comorien. C'est horrible d'entendre ça. Non seulement c'est du pur racisme, mais en plus c'est totalement irrespectueux à l'égard du sort des milliers de morts comoriens qui se noient dans l'océan Indien en tentant de trouver refuge sur l'île de Mayotte, qui est le 101e département français depuis 2011. De même, interrogé sur la situation de l'Afrique au sommet du G20 il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a expliqué que selon lui, l'un des défis du continent était civilisationnel et que ces problèmes étaient liés entre autres à la surnatalité. Et je cite, quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Voilà, c'était en marge du G20. Alors s'il est vrai que la question de la surpopulation est fondamentale pour l'avenir de la planète, la réduire seulement à l'Afrique est un beau signe de racisme, sans oublier d'ailleurs que chaque pays africain a une situation démographique différente, donc les mettre tous dans le même panier s'apparente aussi à du racisme. Bon, on a vu dans le même série de dérives moins racisme, plus autoritaire cette fois, Monsieur Macron mettre en place un régime politique ultra-autoritaire, voire dictatorial, au sein même de sa formation politique qui s'appelle La République En Marche. Ainsi, si les adhérents de La République En Marche vont pouvoir voter pour avaliser les statuts de cette République En Marche d'ici au 30 juillet, ils n'auront ensuite plus aucune prise sur les décisions, plus aucun pouvoir sur les décisions au sein de ce mouvement. Un certain nombre d'adhérents, quand même, intégreront le Conseil, qui est présenté comme le Parlement de la République En Marche, mais ils seront tirés au sort et représenteront que 20% des membres de cet organe décisionnel du mouvement politique La République En Marche. Pour le reste, si les statuts précisent pourtant que La République En Marche appartient à ses adhérents, les procédures internes ne leur donneront quasiment jamais l'occasion de s'exprimer. Alors qui c'est qui va pouvoir prendre les décisions et s'exprimer au sein de ce parti politique ? Ce sont ses élus, ceux qui sont pour l'instant députés, puisqu'ils n'ont pas de sénateurs encore. Il n'y a qu'eux qui ont le pouvoir dans ce parti politique. Alors, même ces élus qui ont du pouvoir, ils ont un bout de pouvoir ultra limité, puisqu'on a appris, grâce au canard enchaîné d'hier, qu'ils avaient l'obligation de suivre à la lettre les consignes de vote du groupe. On ne doit pas penser par soi-même dans ce parti politique. Ça fait un peu Union soviétique, un petit peu quelque part, un petit peu stalinien. Ils n'auront pas le droit non plus d'évoquer ce qui se dit en réunion de groupe, donc tout doit être secret, caché. Il leur est aussi interdit de travailler avec d'autres groupes parlementaires. Et pour couronner le tout, l'article 16 des statuts de la République En Marche précise que les députés marcheurs ne peuvent pas co-signer d'amendements ou de propositions de loi issues d'un autre groupe parlementaire. Si quelque chose de bien est proposé par quelqu'un d'autre, on crache et on vomit dessus. Grosso modo, ça veut dire ça. Et si c'était le cas, si une de ces règles n'est pas suivie, bien sûr, l'intéressé serait convoqué par le président, voire il serait exclu de ce beau parti totalitaire, La République En Marche. C'est marrant, ça va faire passer les Républicains ou le PS pour des modèles de démocratie. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance, quand même. Ces partis politiques ayant, quand même, des dérives un petit peu autoritaires, avec certains grands chefs. Ben là, La République En Marche, c'est tout ça puissance 10. Alors, ça ne s'arrête pas là, bien évidemment, puisque cerise sur le gâteau, les nouveaux amis et célèbres invités de ce mois de juillet de M. Emmanuel Macron confirment cette dérive autoritaire qui aurait en effet imaginé voir Netanyahou, dirigeant israélien mettant en œuvre une politique raciste en partenariat avec l'extrême droite israélienne, se retrouver invité pour une commémoration de la rave du Veldiv. Ou qui aurait pu imaginer que le sexiste et homophobe Donald Trump puisse être reçu en grande pompe par le président de la République, et ce, dès aujourd'hui. Eh bien si, sous Macron Ier, tout est possible, et je dirais surtout le pire. Finalement, en cette veille du 14 juillet, on se plaît plutôt, quand même, à rêver du retour de cette tradition révolutionnaire française, où les révolutionnaires plantaient au bout de leur pic la tête de leurs ennemis, à l'image du dessin à la une du Charlie Hebdo de cette semaine. Tout ceci n'est bien sûr qu'une image, mais le mépris de classe du président Macron et de ses amis riches ne les mettent pas du tout à l'abri d'une révolte populaire qu'on espère, qu'on souhaite, qu'on désire. La résistance ne fait que commencer. Bon 13 juillet. Alors, dans ce 13 juillet, nous allons parler de Liu Xiaobo, nous allons parler un petit peu d'économie et voir qu'il y a des alternatives aux économies proposées par ce gouvernement En Marche. On parlera un peu de droits des femmes, on va parler beaucoup de voyages.
Ouais, on va parler de tourisme ce soir, ouais. Une grosse phase touriste les vacances. Hein.
Avec des grèves, du business.
Bah évidemment, ça faut bien s'attendre que c'est pas pour vous inviter à partir simplement en vacances. Hein.
Voilà, des profiteurs, tout ça dans le tourisme. Et puis après, on parlera plutôt environnement dans cette fin de Canu Info. Parlons d'abord de ce décès. Tristement
oui.
Décès, mais ô combien prévisible.
On s'y attendait bien, avoir un cancer du foie en phase terminale, on se doutait bien que ça finirait mal. Pour autant, nous n'avions pas préparé sa nécrologie en attendant sa mort. C'est pas notre genre. Et voilà, aujourd'hui, je lis 13 juillet 2017, Liu Xiaobo est mort. Mort car emprisonné pour avoir manifesté son opposition au régime chinois, régime communiste que certains occidentaux, certains français ont encore du mal à critiquer. Ces maoïstes français à qui on ferait bien bouffer le prix que lui-même n'a jamais vu, son prix Nobel de la paix, remis en octobre 2010 devant une chaise vide, car même sa femme, Liu Xia, n'a pas eu l'autorisation de se déplacer jusqu'à Oslo. Il ne suffisait pas pour l'État chinois de simplement censurer ses ouvrages, de les interdire à la distribution, d'être interdit à la lecture. Il fallait casser cette voie pacifiste et tenter de rappeler à ceux et celles qui voudraient suivre ce chemin que la prison, la répression serait le seul résultat de leur entêtement. Pourtant, des Chinois et des Chinoises critiquent encore et toujours le régime au péril de leur liberté et parfois de leur vie. Il faut bien le rappeler, car le problème du régime chinois, c'est que ces hommes et ces femmes sont courageux et courageuses. Il faut aussi le reconnaître. Il a connu, comme beaucoup, la rééducation à la campagne grâce à Mao et son grand bond en avant. Le camp de travail en 96, emprisonné pour avoir participé au mouvement de la place Tiananmen, après une grève de la faim réprimée, engagé contre la corruption, pour la liberté d'expression, signataire de la charte 8 avec 303 autres, il faut le rappeler. Il était devenu un symbole gênant qui refusait de fermer sa gueule, courageux comme les autres, je vous le disais. Arrêté le 23 juin 2009, puis condamné le 25 décembre 2009 à 11 ans de prison pour subversion. On se rappellera que, comme d'autres Chinois et Chinoises exilés, il était rentré en Chine, espérant que la démocratie viendrait en 1989. À cette époque-là, il vivait à New York, il est rentré. Eh ben, la démocratie, elle est pas venue et elle est toujours pas là. Elle était pas là à l'époque, elle est toujours pas arrivée. Car oui, la Chine, elle s'est ouverte au libéralisme, au tourisme, à la diplomatie internationale, mais pas à la démocratie, pas à la liberté de la presse, pas à la liberté d'opinion, pas aux droits humains fondamentaux, tout simplement. Alors moi, ce qui me désole, ce qui me fait monter la colère, je dois vous le dire, c'est qu'il est mort en liberté conditionnelle, mort enfermé, surveillé dans cet hôpital présenté comme un effort positif par les autorités chinoises. La mort en homme libre n'est peut-être pas plus douce pour le mourant, mais en tout cas pour sa famille et pour lui, ça aurait été beaucoup, certainement trop pour les autorités chinoises. Rappelons que d'autres connus, méconnus, inconnus sont en résidence surveillée, emprisonnés. Malgré la répression, les menaces, les emprisonnements, les tabassages, les tortures, les Chinois et les Chinoises ne renoncent pas, continuent à se battre pour leur liberté, pour l'ouverture de ce pays qui commence maintenant à subir depuis longtemps ce communisme qui est devenu une espèce de truc qui ne permet qu'à certains et certaines de continuer à s'enrichir. Voilà, on n'a pas fini de rendre des hommages, mais nous, ce soir, on rend hommage à Liu Xiaobo, qui est mort à cause de l'État chinois.
On va revenir sur l'actualité française. Et on va reparler un petit peu des économies qui vont être imposées aux services publics par le gouvernement pour suivre un peu le rapport de la Cour des comptes qui dit qu'il faut réaliser 4 à 5 milliards d'économies d'ici fin 2017, donc il reste à peu près 6 mois, pour arriver à 3% de déficit public et respecter les règles européennes. Alors les arbitrages auraient été rendus, Gérard Darmanin, le ministre, nous explique bien qu'ils ont déjà trouvé les 4,5 milliards, il n'y a pas de soucis, et ils nous expliquent qu'ils vont pas toucher les services publics rendus aux Français et qu'ils vont pas augmenter les impôts. On se dit, ouais, putain, ils sont forts, ils ont trouvé un truc. Et en fait, non. En fait, c'est un énorme mensonge, puisqu'ils vont faire d'énormes coupes budgétaires. Et les coupes budgétaires, elles se font pas dans les services privés, elles se font dans les services publics. C'est bien nous qui sommes concernés. Par exemple, on enlève 160 millions à la justice. La justice, jusqu'à preuve du contraire, service public. Alors ils disent, oui, mais on bloque les nouvelles acquisitions de locaux. Bah oui, s'ils achètent des locaux, c'est qu'ils ont besoin d'agrandir les tribunaux, c'est qu'ils ont besoin d'améliorer l'accueil des justiciables, etc. Ah ben non. Sur l'éducation, ils coupent. Ils enlèvent 75 millions d'euros. C'est pareil, jusqu'à preuve du contraire, l'éducation est un service public. Ils enlèvent 50 millions à la culture. Alors, c'est pas un service public directement, mais la culture est financée en grande partie par l'argent public, et c'est quelque chose d'important. Alors voilà, ils enlèvent aux affaires étrangères aussi, alors peut-être qu'on s'en fout un peu. Ils enlèvent un peu à la défense, c'est le seul truc qui nous ferait un peu plaisir. Ils enlèvent un peu à l'intérieur. Bon, les flics ont des voitures moins neuves, ça c'est pas gênant. Mais enfin, grosso modo, on va quand même toucher à des choses importantes que sont l'éducation, la justice, la culture. Voilà. Alors moi, je me suis posé une question, je me suis dit, bon, il leur manque 4,5 milliards d'euros. Est-ce qu'on peut pas trouver facilement 4,5 milliards d'euros? Eh ben moi, en 5 minutes, j'ai trouvé 4,5 milliards d'euros. Je suis bon quand même.
Je suis sûr de à peu près d'où tu as pu trouver te sens venir.
En fait, c'est super facile. J'aurais pu être ministre de l'économie. Malgré.
Sous Macron, en tout cas, pour faire des réductions.
Ouais, alors j'aurais pas fait au même endroit que lui. Mais j'ai trouvé un truc simple, parce que aujourd'hui, l'État vient d'annoncer qu'il validait l'injection de 4,5 milliards d'euros dans Areva. C'est-à-dire qu'il manque 4,5 milliards d'euros dans le budget de l'État. Mais il trouve 4,5 milliards d'euros pour donner à une entreprise. Bah, attendez, moi j'ai trouvé, vous arrêtez de donner 4,5 milliards d'euros à Areva. Il n'y a aucune raison de donner de l'argent à une entreprise. Parce que les entreprises qui vont mal, il y en a beaucoup. Il y a plein de PME, il y a plein de très petites entreprises, il y a quelques grosses qui vont mal aussi. Pourquoi Areva ? Alors Areva, il y a un enjeu politique, hein, bien évidemment. Ça n'a jamais posé aucun problème à aucun gouvernement de donner de l'argent au nucléaire. Par contre, on ne va pas aider une entreprise qui ferait des panneaux solaires, qui ferait des éoliennes. Non, pas du tout. On donne au nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la santé. Alors qu'on sait quand même que les énergies renouvelables créent plus d'emplois, hein, avec la même somme d'argent, puisqu'il y a plus de travailleurs et moins de machines qui coûtent moins cher, parce qu'une centrale nucléaire, c'est quand même sûrement un des trucs les plus compliqués qu'on met en œuvre, parce que c'est un peu technique quand même. Voilà, donc l'État va apporter 4,5 milliards d'argent frais à Areva, ce qui va permettre au fonds souverain du Koweït de gagner 300 millions d'euros. Ah bah oui. Parce que bon, en même temps, on enrichit des actionnaires. Ah ben, ils n'ont pas le choix, c'est dans le montage financier, ils sont coincés. Ah ben voilà, comment on sort 300 millions. Alors, vous avez vu, on fait une économie de 160 millions sur la justice et on va donner 300 millions d'euros à des actionnaires du Koweït. C'est quand même la classe, ce gouvernement bien pourri, hein, on peut le dire. Donc voilà. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, on a déjà parlé de cette escroquerie qui est de donner de l'argent à Areva. J'ai trouvé un deuxième endroit où on aurait pu faire plein d'économies. Là, et mes recherches, ça a duré 5 minutes. Une minute pour Areva, 4 minutes pour trouver les autres, parce que c'était plus pour trouver l'autre, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai relu une interview d'un général qui s'oppose à. Qui est un général français, ou un général, enfin un militaire, un haut gradé, là, qui s'oppose, qui dit que la dissuasion nucléaire ne sert à rien, que c'est un gaspillage énorme. Effectivement, ça sert à rien. On peut le constater, on n'a jamais utilisé les armes nucléaires, ce qui est rassurant quand même, déjà. Sauf pour faire péter dans le désert du Sahara ou dans d'autres îles un peu exotiques, mais pas autre chose. Bon, mais on fait peur à personne, en fait. Enfin, du coup, on n'a pas d'ennemis non plus directs. Hein. Ça, c'est un peu compliqué. Mais bon. Donc lui, j'ai relu son texte et je suis allé chercher combien coûtait la dissuasion nucléaire. Actuellement, ça coûte 3,9 milliards d'euros, la dissuasion nucléaire, qui ne sert à rien, je le répète. Et au rage, au désespoir, des militaires font le pied de grue auprès du gouvernement pour faire augmenter cette dissuasion nucléaire, puisqu'ils estiment qu'il faut passer à 6 milliards par an en 2025. 6 milliards. Voilà. Bon, voilà. Alors, ils sont soutenus par les sénateurs, hein, puisqu'il y a eu une question, je ne sais pas comment on appelle ça, auprès des sénateurs qui ont confirmé qu'ils étaient d'accord, en disant qu'il était altéreux, qu'il était dangereux d'altérer la capacité de dissuader. On ne sait toujours pas qui on dissuade. Parce qu'on peut dissuader qu'un pays qui a l'arme nucléaire. Bon, les États-Unis et l'URSS, avec nos bombes, on les dissuade pas. Hein. Ils sont 10 fois plus rapides que nous. S'ils balancent des bombes et qu'on répond, il y a des chances que les nôtres soient arrêtées alors que les leurs pas. Hein. Donc en fait, on dissuade qui ? L'Angleterre, mais on va pas se battre contre l'Angleterre. Il reste qui a l'arme nucléaire ? Israël. Je vois pas Israël bombarder la France. Le Pakistan non plus pour l'instant. Bon, on dissuade personne, donc c'est un vrai gaspillage. Et certains militaires le disent. Donc l'objectif, c'est d'augmenter de 50% à partir de l'année prochaine, à peu près, les dépenses pour la dissuasion nucléaire. Donc voilà, alors ces deux trucs pris très facilement, ça m'a pris vraiment 5 minutes. Comment faire des économies sans toucher au social, sans toucher à la santé, sans toucher à l'éducation, sans toucher à l'environnement, sans toucher aux choses importantes ? Ben voilà, c'est super facile en fait. Voilà, c'était juste une petite leçon d'économie pour nos amis de droite au gouvernement. Mais j'ai une autre info économique.
Oui, juste pour préciser ta pensée, ou en tout cas pour l'accompagner, si tu me permets, parce que là sur la culture, on en dit toujours beaucoup de choses, il faut se rappeler que la culture, l'État finance directement des choses, c'est les musées, le patrimoine, l'archéologie par exemple. Là, certains musées sont des musées d'État, donc là on a un financement direct. Et ce qui est différent du financement indirect sur la création ou sur le fonctionnement d'une entreprise privée qui existe aussi. Moi, je tiens à signaler que je vais me fâcher avec la moitié du secteur du spectacle, mais je pense qu'on subventionne trop la culture privée. Il faut rappeler qu'il y a un théâtre privé qui vit très très bien sans subvention en France, qu'il y a une industrie du spectacle, de la culture, que l'industrie musicale, du cinéma vit très très bien sans subvention et que malgré tout, elle est très très bien aussi, cette industrie financée par des tas de moyens, et qu'il y a une différence entre soutenir la création et soutenir le fonctionnement, et que c'est bien là où les subventions sont souvent très mal réparties.
Mais ce serait mieux de soutenir du coup de la culture publique.
Oui, mais la création, c'est un truc qu'il faut soutenir, parce que c'est là où on a une liberté d'expression, tandis que le fonctionnement, il y a des festivals qui en France sont soutenus sur leur fonctionnement, alors qu'ils ont des très belles billetteries, et que c'est là où moi je suis pas d'accord. L'argent, il faut mieux le répartir.
Voilà, on pourrait parler de Jazz à Vienne qui phagocyte ou voilà,
oui,
pas mal d'argent.
Ou d'autres.
Voilà. Et ben alors justement, on reste dans les dans ceux qui sont riches et qui sont bien placés, où on peut faire des économies. Ben, y en a un qui a trouvé comment gagner plus d'argent. C'est Philippe Cochet. Donc Philippe Cochet, c'est le maire de Caluire-et-Cuire, hein, juste à côté de la Croix-Rousse, pas très loin de Radio Canut. Et il y avait eu un conseil de municipal mardi. Ben, il s'est augmenté. Il s'est augmenté de 1233 euros. Et là où il est bon, quand même, c'est qu'il a trouvé une excuse, ce qui a énervé l'opposition, qui est pas contre le fond qui s'augmente, mais qui est contre la manière. Alors nous, on est contre les deux, bien évidemment, parce qu'il a appelé ça, c'était un examen des indemnités des élus locaux suite à la revalorisation du point d'indice. Alors oui, il y a une revalorisation du point d'indice, les élus ont donc gagné quelques dizaines d'euros de plus. Bah lui, c'est pas quelques dizaines, lui il a pas tenu compte du point d'indice, il s'est augmenté de 1233 euros pour gagner aujourd'hui 4006 euros. Alors pourquoi? Bah il a perdu contre La République En Marche, contre Madame Brocard. Et il trouve qu'il gagnait pas assez d'argent, parce qu'il gagnait 2773 euros, hein, ce qui est plus que le salaire médian et que le salaire moyen en France. Mais il estime que c'est pas assez pour ce grand monsieur qu'il pense être, Philippe Cochet, et il s'est augmenté de 50%. Voilà. C'est facile quand même de s'augmenter quand c'est sur de l'argent public. C'est juste la honte. Mais bon, c'est pas le premier élu, de droite comme de gauche d'ailleurs, qui s'augmente comme ça en arrivant ou en ayant un changement de statut. C'est encore à moi, oui, droit des femmes.
Ah. Et oui, puisque vous aurez remarqué que dans cette émission, c'est Laurent au micro qui nous soutient, nous, les femmes. Non mais c'est vrai, c'est peut-être parce que dans ma vie personnelle, je dois me battre constamment, donc je ne le fais pas à ce micro. Mais il faut bien dire que dans cette émission, c'est toi le féministe.
Voilà, alors du coup, c'est en Arkansas que ça se passe. Donc l'Arkansas, hein, c'est un état du Sud, un état conservateur, dont l'essentiel des textes aujourd'hui sont inspirés par les textes chrétiens, hein, il faut quand même le dire, c'est de ça dont il est question dans cet état-là et dans les états autour de lui. Alors pourquoi je dis ça? Ben parce que une nouvelle loi a été votée au mois de mars et va entrer en vigueur au mois de juillet. Et qu'est-ce que dit cette loi? Cette loi, elle dit que les femmes ne peuvent plus avorter sans l'accord de leur conjoint. Ouais. Bon. Jusque-là, alors en fait, je vais détailler un peu les choses. C'est un décret qui s'inscrit dans le Arkansas Final Disposition White, qui date de 2009, qui prévoit que les membres d'une famille doivent se mettre d'accord sur le sort d'un corps en cas de décès. Bon, jusqu'à maintenant, ça concernait pas l'avortement. Mais, depuis, ils ont changé le statut du fœtus. Donc, le fœtus, donc, c'est quelques cellules, qui peuvent être nombreuses, ça dépend le stade du fœtus, est considéré comme un être humain dans l'Arkansas. Oui, on a dit, hein, la Bible pour avortement, tout ça. Et donc, du coup, rétroactivement, la loi s'applique. Quand il y a avortement, il y a un être humain mort, d'après eux, et pas simplement des cellules, pas un fœtus, du coup, mais un être humain. Et du coup, faut demander l'autorisation de la famille, c'est-à-dire du géniteur essentiellement. Et le cas extrême qui arrive, c'est quand une femme est victime d'un viol. Quand une femme sera victime d'un viol dans l'Arkansas, c'est le violeur qui pourra décider si elle a le droit d'avorter ou pas. La victime devra obéir à son violeur. On se retrouve dans des situations, on décrit souvent l'état des femmes dans les pays musulmans notamment, en Arabie, tout ça, avec des situations horribles où, quand elles se font violer, elles sont obligées de garder les gamins. Ben, l'Arkansas, c'est un peu la même chose. On diabolise beaucoup moins, bizarrement, pour des questions racistes d'ailleurs, les chrétiens d'Arkansas par rapport aux musulmans d'Arabie Saoudite. Mais en fait, c'est exactement la même problématique qui est mise en œuvre. Les mêmes textes religieux, de toute façon, ça se base sur les religions monothéistes, ont beaucoup de points communs. Et donc, voilà où on en est dans l'Arkansas. C'est quand même horriblement triste. Alors, il y a eu quelques réactions. Il y a bien sûr le planning familial qui s'appelle le Planned Parenthood Great Plains qui se mobilise contre ce processus législatif. Et il y a une grosse asso qui s'appelle l'American Civil Liberties Union qui a déposé plainte contre le texte. L'audience est aujourd'hui, donc là on est un peu en avance sur les États-Unis d'Amérique, dans quelques heures, hein, en espérant que ça soit bloqué, mais on a peu d'espoir. Pourquoi on a peu d'espoir? Parce que depuis l'élection de Donald Trump, les mesures anti-IVG se sont multipliées aux États-Unis. On rappelle que le président américain avait signé un décret interdisant le financement d'ONG internationales qui soutenaient l'avortement. Ça, c'était au tout début, quand il est arrivé. Et en avril, le Congrès validait une mesure qui permet aux États-Unis d'interdire le transfert d'argent public à toute clinique américaine qui pratique des IVG. Donc, il y avait des assos internationales qui voulaient financer les ONG qui font de l'information et les cliniques qui font de l'avortement. Tout ça est devenu interdit aux États-Unis, un peu comme ça se passe hein, en Russie, dans les pays totalitaires qu'on connaît. Voilà aujourd'hui l'état de certains États. Comme l'Arkansas, ces États du sud des États-Unis, donc qui n'aiment pas les femmes et qui leur donnent aucun droit, bon, qui ont d'autres défauts, ils sont racistes et tout ça, mais ça, on en reparlera dans d'autres, quand on aura d'autres infos là-dessus. Ça revient malheureusement très régulièrement.
Alors, on va ouvrir une grosse page sur les vacances, le tourisme, les petits avions.
Les gros avions.
Et les gros avions. Et on va commencer d'ailleurs par cette information importante, puisque moi j'étais très déçue, si vous vous souvenez de cette émission, où je pensais vraiment que notre idole à nous, Gérard Collomb, j'entends bien évidemment, serait ministre du tourisme, et non. J'étais, parce que bon, oui, quand même.
Toi, tu le voyais ministre du tourisme.
Mais vraiment, je trouvais qu'il avait beaucoup travaillé à ça, quand même, entre ses déplacements constants et en même temps l'augmentation du tourisme à Lyon et tout ça.
En même temps,
je trouvais qu'il était très bon. Hein,
il avait beaucoup travaillé sur le sécuritaire à Lyon.
Aussi, donc c'était logique.
Donc il était logique qu'il mette en œuvre une politique sécuritaire.
Donc j'étais déçue, en tout cas. Dans le secteur du tourisme, il y avait une demande pour qu'il y ait un ministère du tourisme. Ce n'est pas venu, c'est donc le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, excusez-moi, qui a récupéré le bébé. C'est donc monsieur Le Drian qui est devenu le chef du tourisme. Il est accompagné dans la besogne par son secrétaire d'État, monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Alors, ce qu'on a beaucoup entendu dans les chiffres ces derniers temps, c'est que 2016, la France a perdu 2 millions de touristes, c'est beaucoup, mais que 2017 s'annonce une très 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 bonne année, les touristes reviennent en France. Monsieur Le Drian a commencé à s'exprimer sur le tourisme et il a un objectif qui est assez simple, c'est atteindre 100 millions de visiteurs en 2020 et générer 50 milliards d'euros de recettes en 2020, donc c'est pas pour tout de suite, on a encore le temps de s'y mettre, et de créer tout plein d'emplois. On sait pas bien quel emploi, comment, précaire, pas précaire, à longue durée, mais en tout cas, on nous annonce une création potentielle de 300 000 emplois. C'est beaucoup. Donc autant dire qu'il risque d'être très précaire l'emploi pour qu'il y ait quand même tous ces emplois qui puissent être mis en œuvre. La réalité en tout cas du tourisme en France, c'est que c'est la première destination mondiale. Mais en termes de recettes, la France ne se place qu'en quatrième position. Derrière les États-Unis, la Chine et l'Espagne. C'est-à-dire que en France, les gens viennent.
Mais dépensent moins.
Bah,
c'est peut-être sympa parce que la vie est peut-être pas trop chère, parce qu'on trouve des activités gratuites, parce qu'il y a des.
C'est aussi parce que, par exemple, c'est un peu la problématique que Gérard Collomb avait à Lyon, c'est qu'il avait réussi à augmenter les visites à Lyon, mais les gens ne restaient pas forcément. Donc c'est comment faire le passage d'une journée à deux, trois, voire quatre journées. Ça veut dire des nuits d'hôtel, des restaurants, de la consommation. Voilà. Ça veut dire un petit peu tout ça. Donc on est quand même dans cet objectif-là. Moi, là où j'étais déçue qu'il n'y ait pas un ministère du tourisme, c'est que justement, on nous dit que c'est vachement important. Et que c'est un secteur économique très très important en France, et pourtant finalement ça reste un truc dans le ministère des Affaires étrangères qui, vrai, n'a pas beaucoup finalement d'autres tâches à mener. Alors, on va commencer d'abord par essayer de se marrer un peu, si vous voulez bien. Alors, si ça vous touche, je suis désolée d'en rire, d'accord ? Vraiment, j'en suis désolée. Mais alors, ça fait un mois que c'est le bazar dans les aéroports français, et en particulier dans les aéroports Paris, hein, Roissy et Paris-Charles de Gaulle. C'est le bazar parce qu'il y a un engorgement au niveau des contrôles de sécurité et a priori la situation est en train de s'amplifier sur juillet et ça risque d'être le cas jusqu'à la fin des congés scolaires. Alors le premier à s'être vraiment énervé dans la presse, a refait un communiqué et tout le machin, c'est Marc Rochet, le PDG, le patron d'Air Caraïbes, qui s'est beaucoup énervé. Il paraît que donc il y a des délais d'attente aux polices aux frontières extrêmement important, et tout ça, ça a des répercussions sur toute la chaîne, hein, dans un aéroport. C'est-à-dire que si vous vous mettez à attendre quand vous passez d'abord la douane après avoir déposé vos bagages, et ben ensuite vous avez une autre répercussion, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il faut savoir que même à la sortie, c'est-à-dire quand les gens rentrent sur le territoire français ou à l'entrée et à la sortie, ça dépend dans quel sens vous le prenez, à la sortie de l'avion, on va le prendre comme ça, ils contrôlent tout le monde, et tous ceux qui sortent de la France, tout le monde est aussi contrôlé. Alors je vais éteindre mon téléphone parce que il y a un petit bruit qui sonne et c'est très agaçant. Et donc là, il y a des engorgements. Mais tout ça se fait que, en fait, après, il y a des départs d'avion retardés, puisqu'il y a aussi des gens qui ratent leur correspondance. Et le problème, c'est qu'il faut se souvenir que quand votre avion est en retard, vous pouvez demander un dédommagement en tant que consommateur, consommatrice. Et donc, ben, au niveau des compagnies aériennes, ça commence à gueuler parce qu'il commence à y avoir beaucoup de sous à sortir pour les consommateurs et les consommatrices qui ont raté un avion, qui ont raté une correspondance. Donc, c'est un bazar innommable, comme le dit le PDG de Corsair, par exemple. Du côté d'Air France KLM, monsieur Janayak est aussi en train de... Lui, il a mis un peu plus de temps à gueuler, mais aussi en train de tirer la sonnette d'alarme. Ce qui est critiqué, c'est qu'il n'y a a priori pas assez de fonctionnaires pour nous contrôler.
Il n'y a pas assez de fonctionnaires.
Et puis surtout, vous savez, il y a ces systèmes automatisés où vous, avec maintenant les nouveaux passeports biométriques, il suffit de les passer, de rentrer dans la cabine et puis vous ressortez de l'autre côté. Il n'y a plus besoin d'un fonctionnaire de police ou de douane. C'est les nouveaux systèmes qui sont mis en place dans un certain nombre d'aéroports. Et ça, il en faudrait beaucoup. Alors on en annonce 120, quelque chose comme ça, dont 40 aussi à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon, en tout cas à côté de Lyon, même si on appelle ça l'aéroport de Lyon, parce que ça permettrait justement de pallier l'être humain qui est trop long. Vous savez, ça va beaucoup plus vite. Voilà,
mais
ça...
machines, oui.
Et voilà que la machine va plus vite. Mais il y a aussi l'idée de mettre plus de caméras de reconnaissance faciale. Sauf que ça, en fait, malgré tout ce que vous nous faire croire les séries américaines policières, ça marche pas si bien que ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur la question. Donc pour l'instant, c'est pas absolument généralisé, mais ça permettrait d'aller effectivement plus vite pour nous contrôler. Rappelons-le, hein, quand même, le but est bien là. Certes que, voilà, évidemment, les compagnies aériennes montent au créneau. Ça râle beaucoup dans les aéroports. Alors, il y a des patrons de compagnies aériennes, la Fédération nationale de l'aviation marchande, qui ont commencé à contacter Matignon pour leur faire savoir qu'il y avait quand même des soucis. On attend toujours vraiment la réponse de Matignon, il faut bien le dire quand même. Ce qui est très drôle, c'est qu'a priori, je ne sais plus quel est je crois que c'est le PDG d'Air Caraïbes qui parle d'émeute, c'est-à-dire qu'a priori, les gens ont tellement marre d'attendre, parce qu'on parle de une heure et demie, voire trois heures d'attente, hein, quand même. Les gens en peuvent plus, ils ont chaud, ils en ont ras-le-bol, leur gamin gueule à côté. Donc il paraît que c'est de la bousculade, hein, on va appeler ça au moins comme ça, parce que l'émeute me paraît un peu fort comme terminologie quand même, où les gens deviennent, comment dirais-je, font preuve d'incivilité, comme on dit aujourd'hui, se marchent dessus, se bousculent, se poussent pour tendre leur passeport. C'est-à-dire que les gens sont pressés de se faire contrôler, globalement. Il paraît qu'ils ont même dû faire intervenir parfois la police pour arriver à pousser des groupes qui étaient en train léger de se foutre sur la figure, il faut le dire. Et puis, il y en a d'autres qui font remarquer que quand même, en termes d'image, c'est pas trop bon en France de dire que on sait pas accueillir quand même les touristes. Et moi, je le dis, c'est vrai qu'en termes d'image, alors qu'on veut les JO, c'est pas très bon. Mais comme on est sûr de les avoir...
On veut pas.
Non.
L'État veut
l'État.
Les JO.
Et puis des sportifs, et puis la ville de Paris. Tous ces gens-là veulent les JO. C'est sûr qu'il faudrait avoir bonne figure. Mais sauf qu'on est sûr d'avoir les JO. La seule question est de savoir si c'est 2024 ou 2028. A priori, tout le monde espère qu'en France, ça soit 2024, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a des terrains qui sont préemptés pour 2024. Et puis, il y a surtout une équipe politique qui est prête, là, hein, soudée, de tous les bords, hein, d'ailleurs, franchement, qui sont soudés.
Et pour dépenser de l'argent public, ils sont tous d'accord.
Et ben voilà. Et alors là, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on nous annonce des baisses et des économies assez importantes, et on va aller dépenser les sous qui, certes, sont aussi versés par le privé. Hein, il faut bien l'entendre.
Oui. Et en grande partie par l'État.
Mais ça coûte quand même.
Sur des compétitions sportives qui sont inutiles.
Et voilà. Et donc, on ne sait pas donc accueillir actuellement les touristes convenablement, mais on espère bien d'ici 2024 ou 2028
que améliorer les choses.
Soit prêt pour mieux pouvoir nous contrôler. Encore une fois, il faut le rappeler. C'est pas exactement quand même pour qu'on soit heureux, hein, tout tout ça. D'ailleurs, dans la même idée un petit peu, les États-Unis d'Amérique, qui ne cessent aussi de vouloir mettre de nouvelles procédures dans les aéroports pour accueillir entre autres les touristes, mais aussi les hommes et les femmes d'affaires. Il y a une nouvelle idée, c'est de faire sortir les livres des bagages à main, c'est-à-dire pas ceux que vous avez dans votre valise, hein, qui vont aller en soute, mais les bagages que vous allez garder avec vous en cabine. Et là, l'idée, c'est donc de vous les faire sortir parce que c'est des choses qui sont assez denses.
Et du coup, ils savent pas trop ce que c'est.
Et ils ont du mal à voir. Le problème, c'est qu'il y a des associations et des organisations, on appelle ça plutôt comme ça aux États-Unis d'Amérique, de liberté d'opinion, liberté de la presse, et puis aussi des associations, organisations des droits humains, qui commencent un petit peu à dire « Excuse-moi, mais j'ai pas trop envie de montrer ce que je te lis, parce que c'est la porte ouverte à tout derrière. » Alors bien sûr, la plupart du temps, on s'en fiche de savoir qu'on est en train de lire tel ou tel polar. Mais
si vous avez un bouquin politique contre le gouvernement en place du pays où vous allez, ça risque d'être mal vu.
Et voilà, et on ne sait pas ce que demain M. Trump peut mettre en place, ou ce que les équipes sur place du FBI et tout ça peuvent avoir envie de contrôler, et à quoi vont servir toutes ces informations. On en est toujours au même point. C'est pour l'instant, peut-être que c'est pas grave, mais peut-être que dans quelques années, peut-être que dans une décennie, ça le sera. Donc, bah autant pas le faire. Mais voilà, on est aussi dans ce processus du contrôle et du tout voir. Donc, bientôt, il va peut-être falloir aussi sortir tout son appareillage, hein, pour bien montrer tout ce qu'on a dans ses petites affaires. Alors, on va parler grève. Hein, parce que vous savez que dans l'aérien, il y en a quand même de temps en temps. Alors, on va commencer par ce qui se passe chez Air France, en tout cas, plutôt dans la filiale.
Hop,
avec le point d'exclamation. Alors, il y avait des grèves depuis déjà quelques temps au niveau de cette filiale d'Air France. Et hier, mercredi, la direction de Hop est parvenue à un accord avec les syndicats sur les salaires, le suivi des carrières et les conditions de travail des 13 000 personnels navigants commerciaux, ce qu'on appelle les PNC, c'est-à-dire les hôtesses et les stewards, les gens qui volent, hein, dans les petits avions, pour la période 2017-2022. Alors, c'était des négociations qui ont traîné, qui ont été très très longues. Normalement, tout ça aurait dû être déjà négocié depuis octobre, et puis ça traînait. Bon, ça, c'est fait. Le problème, alors je peux vous le dire, il y a l'embauche d'au moins 500 PNC de plus sur les 5 prochaines années. Il y aura pas une mobilité contrainte vers justement Hop dans le cadre du projet Boost. Enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même des avancées, mais le problème, c'est que la direction n'a pas réussi à négocier avec les pilotes, d'où une grève qui commence ce jeudi et qui va durer jusqu'au 18 juillet, parce que là, de seul coup, avec une toute petite partie des pilotes, il faut le dire, et ben la direction n'a pas réussi à se mettre d'accord, d'arriver à trouver une convention unique avec toutes les compagnies. Donc là, ça marche pas. Alors bon, on nous annonçait des taux de grève assez petits du côté évidemment de la direction, que vous allez quand même pouvoir prendre votre avion, vous inquiétez pas. Puis au pire, sinon on vous transportera d'un point A à un point B, je sais pas, avec un bus Macron par exemple, hein, parce que faut trouver quand même d'autres opportunités où on vous mettra dans le train. Donc il y avait un peu des aéroports partout en France qui sont touchés par cette grève. Et alors moi, j'entends souvent dire que Air France, faut pas prendre parce qu'il y a toujours des grèves et que quand même c'est nul, il faut mieux prendre une compagnie
étrangère.
Alors Hop, on rappelle, c'est du court et du moyen. Ils sont pas sur du long.
Oui, il y a eu des grosses grèves à la compagnie allemande l'année dernière.
De chez Lufthansa. Ouais. Et là, il y en a une qui dure jusqu'au 16 juillet, qui est chez qui ? Chez la British Airways. Et oui, comme quoi, dans tout l'aérien, on est touché par ces conditions de travail qui sont critiquées, par les modifications aussi, hein, le fait de racheter des concurrents, de développer des filiales locaux, enfin toutes ces choses à bas coût, excusez-moi, je parle mal, toutes ces choses qui font que le personnel, même si les pilotes sont extrêmement bien payés et que ça peut vous paraître indécent, si on peut leur donner ces salaires, c'est que l'argent y rentre, hein, quelque part, il faut jamais l'oublier. Et puis le personnel est très varié. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement chez Hop, c'est très corporatif, ça se met pas en place. Et ben, c'est les British Airways, c'est un petit peu la même idée, puisque là, c'est aussi le personnel en vol, steward et hôtesse qui sont en grève, hein, puis ça a commencé le 1er juillet dernier. Donc là, c'est surtout sur de la rémunération hein, que y a une grève. C'est le troisième mouvement en quelques mois qui est porté par un syndicat qui s'appelle UNIT. Mais c'est pareil, on nous dit que tous les passagers vont pouvoir être emballés. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une compagnie. Vous savez que les compagnies travaillent les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on va vous vendre un billet Lufthansa, mais vous allez être transporté par une autre compagnie. Donc, ce sont des accords qu'ont les compagnies aériennes entre elles. Et là, la British Airways a une alliance dans le cadre de One World avec la compagnie Qatar Airways. Je vais y arriver, excusez-moi. Et donc, Qatar Airways va prêter, en fait, louer, bien évidemment, ses avions et son personnel pour trimballer les passagers qui ne peuvent pas prendre les vols en grève à la British Airways. Donc, entre patrons, on se rend bien évidemment de petits services de ce genre. C'est ce qui s'appelle caisser une grève, hein, quand même, il faut le rappeler. C'est tout à fait simple. Il faut aussi se souvenir que Qatar Airways détient 20% du capital d'International Airline Group, qui est la holding qui est née de la fusion entre Iberia et British Airways en 2010. Donc, il y a quand même aussi derrière de l'intérêt entre ces rapprochements, hein, autant que la British Airways aille bien et continue à avoir des consommateurs et des consommatrices. Et puis, dans la même idée, il faut se garder à l'esprit que Qatar Airways a un petit peu des soucis. Je vous rappelle qu'il y a un embargo avec le Qatar. Hein, vous avez peut-être suivi cette affaire depuis début juin. On a Riyad, Abu Dhabi, l'Égypte, le Yémen, qui ont rompu les relations diplomatiques avec le Qatar, qui est accusé donc de soutenir le terrorisme et d'être trop proche de l'Iran. Et là, à ce moment-là, évidemment, le Qatar Airways se retrouve dans une difficulté puisque la compagnie n'a plus le droit de survoler le Bahreïn et l'Arabie Saoudite avec ses avions, donc doit faire des gros détours, ce qui coûte évidemment beaucoup plus cher en pétrole, par exemple. Et puis aussi, Qatar Airways n'a plus le droit d'atterrir sur ses aéroports des villes du royaume que je viens de citer. Donc par là même, elle perd aussi une partie de ses passagers, donc y a de l'argent en moins qui rentre. Mais du coup, voilà, le Qatar Airways a d'autres moyens peut-être de trouver de l'argent avec d'autres associations et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui s'inquiètent, c'est les compagnies aériennes britanniques avec le Brexit, puisque une fois qu'il y a des accords qui permettent aujourd'hui entre les compagnies aériennes en Europe, dans le cadre de l'Union européenne, de pouvoir se poser plus facilement, d'éviter aussi à leurs passagers tel ou tel contrôle. Là, dans les compagnies aériennes britanniques, on commence à s'inquiéter des conséquences du Brexit. C'est-à-dire comment ça va se passer? Est-ce que si jamais il n'y a plus les mêmes accords, comment vont pouvoir atterrir ces compagnies aériennes, par exemple à Paris, à Bruxelles, mais aussi aux États-Unis d'Amérique, puisque les compagnies britanniques profitent des accords de l'Union européenne avec les États-Unis d'Amérique. Et là, les patrons des compagnies aériennes britanniques sont en train de dire qu'il va falloir tout de suite commencer à négocier, parce que si on attend la fin du Brexit et les accords de négociation en 2019 avec l'Union européenne, ça sera trop tard, parce que les plans de vol, ça se prépare en avance, les billets d'avion sont aussi mis en avance en vente, et tout ça va poser un gros problème au niveau évidemment économique, de la gestion des passagers et de la gestion dans les aéroports. Donc ils sont en train de taper à la porte en disant oh, il faudrait négocier tout de suite pour que nous on perde pas aussi notre transport et nos clients, et globalement on en revient toujours à la même chose. Donc il faudrait prévoir tout ça en amont. Ça, c'était ma partie sur les avions. Vous avez bien compris, c'est la grève de partout, donc de toute façon ça sert à rien de vous dire, vous allez trouver une compagnie mieux qu'ailleurs. Je vais plutôt vous parler d'Airbnb. Alors vous savez, Airbnb s'installe dans toutes les villes, mais grâce à qui? Grâce à nous, c'est-à-dire les habitants qui acceptons de rentrer dans ce processus et de louer notre appartement ou une chambre dans nos appartements. Et vous savez qu'il y a des villes à travers le monde qui se battent contre Airbnb, et il y a une ville qui s'est beaucoup battue, c'est Barcelone. Il faut dire qu'il y a une maire qui est arrivée et qui tout de suite s'en est pris à Airbnb et au concurrent qui s'appelle Home Aware. Et là, d'un seul coup, il y a eu une négociation hier qui est enfin arrivée. Airbnb a proposé enfin de répondre à la mairie qui se battait contre les logements illégaux, qui, puisque Barcelone a mis en place un système de déclaration obligatoire pour les gens qui louent leur appartement dans le cadre de la plateforme Airbnb. Et là, Airbnb va en fait globalement faire de la délation et enlever ces appartements qui ne répondent pas donc aux demandes de Barcelone. Là où c'est important et c'est une vraie victoire pour Barcelone, c'est une de ces villes dont le centre-ville est bouffé par le tourisme.
Oui, les habitants ne peuvent plus y habiter finalement.
C'est ça. Il y a plein de gens qui sont exclus de ce quartier, alors que ça fait des générations que des familles y vivaient. Il n'y a plus que des restos à touristes, des bars à touristes et des appartements à touristes. Et donc l'idée était de rendre Barcelone finalement à ses habitants, ce qui moi je trouve est plutôt une bonne chose. Il fallait déjà se souvenir qu'en janvier dernier, la mairie avait bloqué la création de nouveaux hébergements touristiques dans le centre de Barcelone, c'est-à-dire plus d'hôtels, de pensions, d'auberges jeunesse, d'appartements, tout ça c'était interdit. Les hôtels qui fermaient pouvaient être réouverts, évidemment, peuvent toujours être réouverts en hôtel, mais par contre c'était impossible, et ça l'est toujours, d'ouvrir de nouveaux lieux touristiques pour pouvoir permettre aux habitants de rester, et puis de permettre à des commerces de proximité aussi de rester, parce que plus vous êtes touriste, plus ces commerces de proximité disparaissent. Donc Airbnb se retrouve un peu comme Uber, à devoir finalement négocier et accepter certaines choses pour pouvoir rester en place dans certaines villes. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne victoire pour Barcelone d'arriver à protéger son centre-ville.
Tu voulais nous parler des Baléares aussi?
Ouais, très vite, et c'est juste, vraiment très très vite, c'est juste pour rigoler. Vous le savez peut-être, mais les Baléares c'est du soleil, mais aussi des jeunes qui viennent picoler. Et ben oui, il y a la plage, il y a le soleil, tout ça, c'est très sympathique. Et les Baléares ont décidé de lutter contre le tourisme antisocial. C'est pas mon terme, c'est le leur.
Ah oui.
Globalement, c'est lutter contre le tourisme de beuverie. C'est-à-dire les gens qui viennent là que pour picoler. Et les Baléares souhaitent que les compagnies aériennes qui transportent les passagers jusqu'aux Baléares cessent de servir de l'alcool sur ces vols, puisque les jeunes...
arrive déjà bourré.
Arrive bourré. Il paraît, parce que moi j'ai découvert ça, qu'il y a beaucoup de que beaucoup de vidéos circulent sur les réseaux sociaux et commerciaux sur Internet, montrant des jeunes en train de faire absolument n'importe quoi dans les avions. C'est la fête à la beuverie, voire d'avoir des rapports sexuels dans les avions, en tout cas d'essayer. Il faut dire aussi que c'est un tourisme très masculin. Très bourrin, si vous m'excuserez de vouloir genrer la beuverie, mais là quand même il faut le dire. Et puis les Baléares sont en train de perdre des touristes, donc ils aimeraient changer l'image des Baléares et rappeler que c'est pas qu'un lieu de jeûne bourré, mais que ça pourrait être aussi une destination de soleil pour les familles, ce qui pour l'instant est quand même pas trop le cas dans les touristes qui se déplacent. Donc voilà, l'idée c'est de changer l'image, mais dès le départ, c'est-à-dire avant même que vous arriviez, que déjà vous soyez pas bourré, qu'à la guerre, et puis de changer après sur place les habitudes. Mais ça, les problématiques, elles sont là, c'est qu'on sait que dans certains endroits du monde, les gens viennent pour le soleil, et puis viennent juste pour boire parce que c'est pas cher. C'est du sale touriste. Et c'est du sale tourisme, il faut bien le reconnaître. Les gens sont pas là pour le pays, sont pas là pour les habitants, sont pas là pour la découverte du coin, ils sont là juste pour se payer des vacances pas chères et de pouvoir picoler tout le long et puis de baiser à tour de bras.
Et alors ?
Amis qui baisent, pas de souci, mais qu'ils aient un petit peu du respect pour les gens qui les entourent.
Voilà. On rappelle qu'à Lyon, aujourd'hui et demain, il y a interdiction de vendre de l'alcool, parce qu'il paraît que c'est pareil, l'alcool c'est mal.
Alors je dis pas que l'alcool c'est mal, je dis juste que quand ça vient un tourisme où les gens se déplacent que pour ça, moi je trouve que c'est pas intéressant. Voilà.
Tout à fait. Donc voilà, on poursuit avec une page environnementale pour terminer ce Canu Info de ce 13 juillet. On va commencer par ce qui a été annoncé hier, le Conseil d'État a enjoint, on va dire, ou a obligé le gouvernement à réécrire une quinzaine de plans de protection de l'atmosphère, des PPA, ça s'appelle comme ça, d'ici 9 mois. Donc c'est le Conseil d'État, c'est une juridiction, donc c'est un jugement. Donc c'est assez historique parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas eu droit à tout ça. Et donc le juge a ainsi fait savoir Bah que voilà, l'État est obligé d'appliquer les directives européennes. Ça fait un moment qu'il y a des assos, puisque c'est porté par des assos, notamment les Amis de la Terre, qui essayent de faire condamner la France ou d'obliger la France à appliquer les directives. La justice européenne, pour l'instant, a toujours échoué, et c'est la justice française qui a cette fois-ci fonctionné en obligeant le gouvernement à prendre des mesures pour limiter les concentrations notamment en dioxyde d'azote et en particules fines. Alors ils vont pas en dessous des 10 microns hein, mais on pourrait taper aussi dans celles d'en dessous, et c'est noté dans le délai le plus court possible. Alors, on rappelle quand même que depuis 2008 il y a une directive qui s'appelle une directive sur la qualité de l'air, et que la France ne la respecte pas. C'est quand même historiquement la première fois qu'une ONG obtient la condamnation d'un gouvernement à respecter une directive sur tout le territoire, même s'il y a une jurisprudence anglaise de mémoire, où c'était une ONG qui s'appelle Client Earth, qui avait fait condamner, enfin qui avait obligé le gouvernement de Madame May à revoir sa copie en matière de lutte contre la pollution de l'air. Donc voilà, c'est un peu la direction du... C'était la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'Angleterre qui a permis cette jurisprudence au Conseil d'État de s'appuyer dessus et d'obliger la France, enfin le gouvernement français, puisque le Conseil d'État c'est aussi la France, à mettre en œuvre des vraies politiques. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont faire exactement. En tout cas, ils ont, et c'est ce qui est précisé par le jugement du Conseil d'État, il ne faut pas simplement mettre des choses en œuvre, il faut les mesurer. Et il y a une obligation, non pas de mesure, mais une obligation de résultat. Et ça, c'est assez nouveau dans la politique française, parce que jusqu'à maintenant, on fait semblant, hein, on fait tourner les voitures, une voiture sur deux, alors qu'on en a trois sur quatre qui circulent quand même. Voilà, c'est des mesurettes qui n'ont jamais eu d'impact réel sur la pollution. Donc on verra dans l'avenir si ça va servir à quelque chose. Alors, en application à Lyon, là où est Radio Canu, bien évidemment, on sait que la préfecture a annoncé que dans les prochains pics de pollution, il y aurait la mise en place de la circulation différenciée. Alors on dit plus alternée maintenant, parce qu'alternée c'était quand c'était numéro de plaque pair ou impair. La différenciée, c'est suivant la petite vignette que vous avez collée sur la voiture. Si vous avez une voiture vieille qui est estimée polluante, vous circulerez pas. Si vous avez une voiture plus récente, vous pouvez circuler. En gros, c'est ça. On sait que cette mesure est peu efficace. Elle a eu une certaine efficacité, mais qui est relativement faible, puisque on connaît les vraies mesures, il faudrait du courage politique, et aucun préfet, aucun élu n'a ce courage politique. Mais en même temps, se pose la question des transports en commun, puisque les transports en commun ont un rôle à jouer sur la diminution de la pollution atmosphérique, puisqu'un bus même diesel pollue beaucoup moins que l'équivalent en voiture qui circule dans les villes. Et le Citral, donc qui est le syndicat qui gère les TCL, les transports en commun lyonnais, se réunit vendredi prochain pour discuter de ce qu'ils allaient mettre en place en cas de pic de pollution et peut-être un type de transport spécifique. Ah, on pourrait rêver d'une gratuité. Alors on sait que ça va être difficile, hein. Il y a eu une gratuité à Lyon en 2014. Le réseau était gratuit pendant tout un week-end, c'était à la mi-mars. Et ça avait fait hurler le président de l'époque, qui était Bernard Rivalta, puisqu'il avait dit ça avait coûté 1,4 million, plus jamais je ferai ça. Alors, que cette mesure ait un impact sur la santé, Monsieur Rivalta s'en foutait totalement, lui il voyait que l'impact financier. Donc on va voir ce que nous vont nous préparer les TCL, sûrement un ticket à prix réduit, ils n'iront jamais plus loin que ça, et c'est dommage parce que c'est une des solutions pour réduire la pollution atmosphérique, c'est de rendre gratuits les transports en commun, en plus d'empêcher les voitures extérieures de rentrer dans la ville, supprimer les places de parking pour que hors résidents, personnes qui viennent de l'extérieur ne puissent pas se garer, ce qui les obligerait, ça les inciterait pas, ça les obligerait à prendre les transports en commun, les trains, les métros, les bus, parce qu'on sait que les incitations, hein, ça fait 25 ans qu'on fait de l'incitation, le nombre de voitures diminue pas. Le nombre de vélos augmente, mais c'est sur les transports en commun que c'est pris. Enfin voilà, ça se mord la queue le système. Donc il faudrait peut-être changer de politique, mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait du courage. Et moi, j'ai jamais vu un homme politique courageux sur l'environnement, et encore moins un préfet. Voilà. On reste dans l'environnement, et on va parler de ceux qui se battent pour l'environnement et qui en meurent, puisque on a un rapport donné par une ONG qui s'appelle Global Witness, qui fait son rapport annuel. Alors ça fait un petit moment, hein, ça fait depuis 2002 qu'ils font ça. Chaque année, ils regardent le nombre de militants environnementaux qui sont assassinés ou tués dans leur lutte. Ça peut être comme en France, il y en a eu un, à Sivens, un militant qui était pour la protection de l'environnement contre un grand projet inutile, qui a été tué par l'État.
Rémi.
Voilà, Rémi Fraisse.
On aurait pu aussi parler de Vital en 77, oui. Voilà, c'était pas le premier.
Non, c'était pas le premier.
En France aussi, on tue, quoi.
Voilà, mais il y en a très peu en France, il faut quand même le dire. Par exemple, au Brésil, 49 morts cette année. En Colombie, 37. Aux Philippines, 28. En Inde, 16. Ça rigole pas. Alors l'ONG, donc Global Witness, s'alarme d'une dégradation de la situation, donc avec deux critères qui sont négatifs. Le premier, c'est que le nombre de personnes tuées augmente chaque année. C'était 185 l'année dernière, on est au moins à 200 cette année. Et le nombre de pays concernés, l'année dernière, il y avait 16 pays dans lesquels il y avait des morts. Cette année, il y en a 24. Donc ça augmente de partout dans le monde.
Oui, ouais. Puisque tu as bien dit, au moins il me semble que Global Witness dit que c'est le comptage que l'association, l'organisation a réussi à faire,
voilà,
avec mais qu'il y en a certainement plus.
Voilà, ce qu'ils ont trouvé dans la presse, reporté par d'autres organisations
ouais.
environnementales, mais ils pensent qu'il y a 40% de cas qui sont non déclarés, qui ne savent pas en fait des militants. Alors pourquoi ? Parce que un militant de Greenpeace qui est assassiné par la France, c'est arrivé lors du Rainbow Warrior aussi, l'attentat des services secrets contre Greenpeace. C'est visible, tu t'en rends compte, ça touche une ONG, l'ONG elle en parle. Mais la majorité des gens qui sont assassinés, c'est des personnes autochtones, notamment en Amérique du Sud. C'est des Indiens ou des habitants d'origine de ces pays qui luttent contre essentiellement des projets miniers, et qui, eux, se font assassiner. Et effectivement, là, ça remonte pas toujours auprès de l'ONG Global Witness. D'ailleurs, la question qui se pose, c'est qui sont les assassins ? On a parlé, effectivement, en France, le Rainbow Warrior, Rémi Fraisse, c'est l'État qui assassine. Mais en fait, dans le monde, c'est très très rare aujourd'hui que les États, directement, s'impliquent dans l'assassinat des militants. Grosso modo, c'est les entreprises, c'est les patrons des entreprises qui payent des personnes pour aller tuer les militants ou les militants ou les résistants, on va dire, aux destructions de l'environnement. Alors, l'Amérique latine, c'est le continent le plus concerné, hein, 60% des meurtres, pour une raison simple, c'est que le Brésil et la Colombie ont des forts scores. On l'a dit, et c'est des pays où il y a beaucoup d'implantations de mines, parce que c'est le secteur minier qui est le plus assassin aujourd'hui sur les militants de défense de l'environnement, parce qu'ils arrivent, ils veulent détruire des pans entiers de planète, et forcément les gens qui habitent là, ils disent non, et les secteurs miniers, ils ont tellement d'argent à gagner et que c'est une magouille, la mafia, tout ce qu'on veut, et que voilà, les patrons des secteurs miniers font payer des criminels pour aller tuer des militants. Et c'est pour ça que ça touche beaucoup l'Amérique latine, puisqu'il y a beaucoup de projets miniers en Amérique latine. D'ailleurs, dans le reste du monde, quand il y a des morts de défenseurs de l'environnement, c'est aussi quand même beaucoup sur les secteurs miniers, ce qui est le cas par exemple en Asie ou aux Philippines, ou en Inde, puisque l'Inde est un des pays dans lequel il y a le plus d'augmentation de morts à cause de capitalistes qui veulent gagner de l'argent en détruisant l'environnement, parce qu'il y a pas mal de projets miniers aussi en Inde. Alors il y a un continent qui est un petit peu à part, c'est l'Afrique. Alors ça concerne pas tous les pays d'Afrique, mais les pays d'Afrique notamment où il y a encore des animaux qui sont braconnés. Et là, c'est les gens qui protègent les animaux qui sont assassinés. C'est le cas en RDC, en République démocratique du Congo, où 9 gardes ont été tués l'année dernière. Alors cette fois-ci, c'est plus par des chasseurs ou des gens qui organisent, qui gagnent de l'argent en organisant des safaris pour permettre aux riches d'aller tuer des éléphants, des tigres, des lions, je ne sais quel animal. Présent encore en République démocratique du Congo, mais c'est bon, il y a aussi quelques morts en Afrique du Sud, au Cameroun, en Tanzanie, en Ouganda, en Zimbabwe, le continent africain a une petite particularité là-dessus, puisque ailleurs il y a plus d'animaux sauvages, donc du coup le problème est réglé en fait, hein, c'est malheureusement voilà. Et pour finir là-dessus, Global Witness s'inquiète aussi de la montée de la criminalisation des militants de l'environnement dans les démocraties. Donc on a parlé de Rémi Fraisse, là ils n'en parlent pas directement, mais il y a notamment une énorme inquiétude aux États-Unis où depuis l'arrivée de Donald Trump, des mesures pour limiter ou interdire les manifestations ont été prises dans 18 États. On se rappelle les grosses mobilisations en Dakota du Sud, notamment par des Indiens, contre les projets d'Aléoduc, d'oléoduc. Et ben voilà, maintenant les manifs sont interdits, l'oléoduc est autorisé. Là, c'est du coup une vraie intervention de l'État qui intervient pour protéger le capitalisme et tout faire pour se débarrasser des protecteurs de l'environnement. Alors la situation aux États-Unis est un peu particulière parce que ils ont élu quelqu'un qui est pour la destruction de l'environnement, Donald Trump, mais ça pourrait donner des idées à d'autres dans le monde. Donc c'est ça qu'ils veulent un petit peu mettre en avant, Global Witness.
On parlait de la Chine au début de cette émission. La Chine tue ces militants écolos. Souvent, ils sont militants et militantes, résistants et activistes sur d'autres domaines aussi. Donc, effectivement, ils ne sont pas que tués que pour ça, mais la Chine fait partie de ces pays. On ne sait pas bien ce que deviennent les gens parce qu'ils disparaissent. Donc, effectivement, ils ne sont pas forcément comptés par Global Witness, mais pour le coup, c'est vraiment un pays qui tue ces militants écolos.
Alors, on va parler un peu de nucléaire. Tout à l'heure, on a parlé de la partie économique. Maintenant, on va parler des mensonges habituels du nucléaire et d'EDF en France, puisqu'on a eu un rapport de l'autorité de sûreté du nucléaire qui remet en cause, donc qui dit c'est que remettre en cause, ça veut dire ce que vous m'avez dit, c'est faux, c'est du mensonge. Mais on n'utilise pas le mot mensonge, bien évidemment, chez l'autorité de sûreté nucléaire. On dit, je cite la vraie phrase de l'autorité de sûreté nucléaire, qu'ils ne peuvent pas garantir l'exactitude des estimations financières du coût du démantèlement proposé par EDF. Bon, en gros, ils disent que c'est pas bon, quoi. Voilà. Hein. Mais c'est un terme un peu diplomatique. Donc, effectivement, l'autorité de sûreté du nucléaire estime que le dossier d'EDF relatif au financement du démantèlement des centrales nucléaires, ne présente pas, comme ils disent, les informations suffisantes pour qu'elles puissent valider tout ça. Grosso modo, beaucoup de choses sont sous-évaluées. Il y a plein de critiques autour de ce que propose EDF. Notamment, il s'appuie sur une étude qui s'appelle DA09, qui a été validée a priori en 2015 par le ministère en charge de l'énergie à l'époque, et qui dit on regarde ce qui se passe sur une centrale et après on peut généraliser toutes les autres. Et là, l'autorité de sûreté nucléaire dit c'est peut-être valable. Mais moi, j'aimerais avoir des outils scientifiques pour le vérifier. Or, EDF n'a jamais fourni l'audit à l'autorité de sûreté nucléaire. Il la cache. Donc, ils se disent, il y a quand même un truc bizarre. Nous, on veut bien valider cette idée qu'à partir d'un exemple, on puisse généraliser, mais il faudrait quand même nous amener des preuves scientifiques, les gars. C'est en gros ce qu'ils laissent sous-entendre. Bon, après, ils critiquent aussi le fait que EDF s'avance en disant « Maintenant, il nous faut 20 ans pour démanteler une centrale classique à eau pressurisée. » L'autorité de sûreté nucléaire est sceptique. Elle est sceptique aussi sur la gestion des déchets. Parce qu'elle dit « Mais attendez là, vous êtes prêts à démanteler, mais vous tenez jamais compte de ceux qui vont s'occuper de vos déchets. » Et c'est par exemple Areva à La Hague qui s'occupe de certains déchets. Si vous leur amenez 12 millions de tonnes d'un coup, ils vont dire non, attendez, il faut attendre, on ne peut pas prendre tout d'un coup. Et l'autorité du nucléaire dit, vous n'avez pas prévu de planning, pas prévu de négocier avec les gens qui s'occupent des déchets. Alors c'est Areva, donc c'est presque EDF maintenant. Hein. Mais pour dire, comment vous gérez l'afflux qui représente un afflux important de déchets quand on démantèle une centrale qui n'est pas du tout l'afflux régulier quand on change une partie du matériel ou des barres de combustible d'un réacteur nucléaire. Voilà. D'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire doute aussi de la gestion des déchets qui est envisagée par EDF, notamment sur les déchets à longue vie, où EDF pense les entreposer directement dans CIGEO. Alors, on rappelle que CIGEO, qui est le laboratoire à Bure, pour l'instant, il n'est pas en place, et qu'ils disent, ça paraît pas évident d'un envoi direct des déchets à CIGEO, et qu'à mon avis, d'après leur avis, il y a autre chose à mettre en place. Et puis, ils rappellent aussi que pour les déchets à très faible activité, qui ont la particularité d'être volumineux et d'être en millions de mètres cubes, mais qui sont faiblement radioactifs, c'est-à-dire qu'il faut garder, protéger la population pendant plusieurs centaines ou voire milliers d'années, mais pas 100 000 ans comme les autres déchets, là, il n'y a plus de place nulle part en France, donc il va falloir aussi gérer ça. Et EDF, ils ne se posent aucune question. Donc voilà, une grosse critique, laissant entendre que EDF ne donne pas toutes les infos. Et puis, j'ai trouvé un truc drôle pour terminer ce Canu Info. Une réunion à Istanbul, en Turquie, autrefois pays démocratique, de l'industrie pétrolière. Ils ont fait une petite réunion Et donc on a toute l'industrie pétrolière, hein. Les gens qu'on connaît, les entreprises qu'on connaît de chez nous, hein. La Shell anglaise, la Total française, mais aussi des compagnies venant d'Arabie Saoudite, enfin voilà, tous ces gens se sont réunis. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont embêtés. Ça fait 20 ans qu'on dit que les hydrocarbures, c'est mal pour la planète. Et eux, ils savent que c'est vrai, et du coup, ils trouvent des, ils savent pas comment faire, donc ils se réunissent pour dire, il faut qu'on trouve un truc, parce que, bon, ils s'en sont rendus compte que les produits qu'on vendait, c'était pourri pour la planète. Bon, faut faire quelque chose, parce qu'on va plus en vendre. Il faut trouver une astuce. Et donc, ils se réunissent pour trouver des solutions, pour essayer de faire croire, et c'est ce que Donald Trump a essayé de faire croire, en rajoutant un complément à l'accord du G20 la dernière fois, qu'il pouvait y avoir de la consommation d'hydrocarbures avec un faible impact environnemental. C'est un énorme mensonge. Alors, ils se réunissent pour essayer de mettre en place, j'imagine, la propagande et d'essayer de faire valider les solutions techniques qui sont essentiellement basées sur l'entreposage. Donc l'idée, alors pas dans votre voiture, parce qu'on peut pas récupérer le CO2 émis par le moteur à explosion de votre voiture si vous avez une voiture, mais dans les grandes usines, les grandes cimenteries qui émettent du CO2 en grande quantité, on récupérerait le CO2 à la sortie des cheminées et après on le stocke. Alors c'est compliqué de stocker, parce qu'il faut stocker du CO2 pour des millions d'années, parce qu'il faut jamais qu'il ressorte. Alors ils imaginent l'injecter dans des anciens puits de pétrole. Enfin, il y a tout plein de solutions qui sont imaginées par des scientifiques qui collaborent avec ces destructeurs de l'environnement que sont les pétroliers, pour essayer de trouver une astuce à leur système. Alors que le meilleur système, c'est d'arrêter tout simplement de sortir des industries de l'hydrocarbure. Mais non, eux, ils veulent pas ça. Ils veulent continuer à vendre du pétrole. Du coup, ils cherchent des solutions. Voilà, on sait qu'il n'y a pas de stockage fiable sur des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'années. Hein, il peut toujours y avoir un tremblement de terre avec des fuites. Et vous imaginez une fuite alors qu'on a mis des milliards de mètres cubes de CO2 qui sortent d'un coup dans l'environnement. Ça détruit le climat de la planète en quelques mois. Enfin, voilà. C'est pas imaginable, mais ils travaillent dessus parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'aujourd'hui, que le pétrole, c'est bien pourri pour l'environnement. Et j'ai trouvé ça très drôle qu'ils essayent de trouver des solutions, de remettre en œuvre de la propagande. Ils savent quand même qu'ils ont Donald Trump en tant que soutien. Du coup, ça fait, ils ont un allié de poids. Ils ont la Chine qui fait semblant sur l'environnement, sur l'accord de Paris, mais on sait que la Chine est bien de leur côté aussi. Ils ont développé d'ailleurs de la récupération de gaz dans l'eau de mer là il y a pas longtemps, qui aura un impact énorme sur l'environnement. Enfin voilà, ils en sont là. Moi je trouve ça cyniquement drôle de les voir un peu paniquer. Malheureusement ils sont quand même beaucoup trop puissants encore aujourd'hui.
On rappellera que la Turquie commémore le coup d'État raté ce 15 juillet 2016. Monsieur Erdogan est donc très fier de pouvoir dire qu'il est toujours là.
Surtout, il doit tout à ce coup d'État, puisque grâce au coup d'État, pas tout, parce que sa carrière politique, elle était faite avant, mais grâce au coup d'État, il a pu mettre en place, j'imagine, beaucoup plus de trucs qu'il n'avait pas imaginez, avec toutes ces mesures antidémocratiques qui détruisent la démocratie turque.
50 000 personnes qui sont placées en détention, qui l'ont été, en attente de procès, 150 000 fonctionnaires mis à pied, dont une grosse partie de professeurs d'école ou d'université. Arte a refait une soirée cette semaine sur la mort de la démocratie en Turquie. Moi, j'ai été frappée par cette femme qui dit « j'y assiste à la mort de la démocratie dans mon pays ». Il faut l'imaginer, ce que vous pourriez, ça pourrait vous faire. Je sais pas. Moi, ça m'a marqué, ça m'a choqué, cette phrase. Si en France, demain, j'assistais à la mort de la démocratie totale dans mon pays. J'ai trouvé aujourd'hui un homme qui a été arrêté. Je vais terminer là-dessus. Il s'appelle Ali Afsi. Vous m'excuserez, je ne parle pas turc, donc je fais beaucoup de fautes dans la prononciation. C'est un producteur et un réalisateur d'un film qui s'appelle Uyanis, ça veut dire...
C'est un film sur Erdogan, je crois.
Le réveil, l'éveil, ouais. Dans l'idée de prise de conscience. C'est un peu la traduction, moi j'en ai trouvé. Hein. Il faut dire qu'il y en a qui vont me dire, il l'a cherché.
Il l'a cherché quand même.
Ah, ouais. Bon.
Je suis d'accord.
je veux dire, quand même, mince.
Faire un
je veux
film
dire.
Qui critique Erdogan, c'est risqué.
Alors,
c'est, quand même.
En fait, sur le justement, hein, sur ce coup d'État, il a balancé une bande-annonce dans laquelle ça commence avec. Ça dure 3 minutes 30. On voit au début, ça tire dans tous les sens. C'est le, donc, ça rentre de, les gens rentrent dans ce palais présidentiel de M. Erdogan. Des gens sont tués. On a une famille qui est assassinée, des femmes. Et ça se termine par un pistolet qui est mis sur le dos du crâne d'un homme avec une moustache, donc un comédien qui ressemble à Erdogan. Monsieur Erdogan. Donc voilà, il a été arrêté aujourd'hui chez lui sur les forces antiterroristes hein, quand même qui sont venues le chercher.
Un cinéaste.
Oui, c'est un cinéaste hein, qui a fait un film que je ne connais pas bien. Il est jeune, hein, Aliyev Chiche, je ne connais pas son travail. Il en avait déjà fait. Il avait déjà fait un film hein, qui avait été qui s'appelait Le Chef sur la vie du président Erdogan. Là, c'est sur le coup d'État. Donc, il cherche a priori, mais comme 50 000 personnes en Turquie qui cherchent hein, quand elles les emmerdent, il faut le dire, puisque Monsieur Erdogan a absolument raison. Il faut le dire aussi.
Il a toujours raison.
Voilà.
C'est ça qui est bien avec Erdogan.
Mais voilà, donc il a balancé cette bande-annonce à l'IFJ. A priori, ça n'a pas plu. Il hein. Faut dire qu'il n'est pas les mollos. Hein. 3 minutes 30 d'abord avec vraiment la fusillade et puis ensuite cette arme sur le crâne de M. Erdogan, en tout cas un comédien qui le représente. C'est assez impressionnant et ça a fait scandale hein, sur les réseaux sociaux. Il se fait insulter de tous les noms. Imaginez donc tous les soutiens de M. Erdogan contre lui. Voilà, ben, c'est la dernière personne en date dont j'ai eu le nom qui se fait arrêter et c'est aujourd'hui.
Voilà, bah, y a un beau recul, hein. On a appris hein, la semaine dernière que la théorie de l'évolution, qui n'est pas une théorie d'ailleurs, hein, qui est un des faits scientifiques sur l'histoire de la vie sur Terre, ne serait plus enseignée, puisque maintenant ils vont enseigner l'histoire du créationniste. En Turquie, il y a un vrai recul, hein. Tout le monde mettait en avant, regardez, le parti d'Erdogan, c'est un islam modéré au pouvoir. Oui, et ben tous ceux qui critiquaient à l'époque, on les moquait. Du coup, non, c'est pas un islam modéré. Il est sûrement possible d'avoir un islam modéré au pouvoir. On pensait avoir un exemple à Turc. Ben non, c'est le contraire. C'est un islam qui est tout sauf modéré, puisqu'il y a des reculs énormes sur les droits des femmes, sur la culture, sur l'enseignement scientifique. Alors là, qui va complètement disparaître. Donc voilà, c'est un truc qui fait vraiment très très peur. Et bien évidemment, comme il est copain avec Angela Merkel, copain avec toute l'Europe, parce que il sert de barrière aux réfugiés qu'on veut surtout pas voir en Europe, eh ben, on le critique pas. Alors que finalement, si on changeait de politique avec les réfugiés, qu'on les acceptait, qu'on les intégrait, qu'on leur permettait d'aller où ils veulent et de vivre comme ils veulent, on n'aurait plus cette pression d'Erdogan sur nous et on pourrait lui dire ce qu'on pense
et puis soutenir les gens qui en prennent plein la gueule là-bas quoi
et soutenir ça, quoi. Les Kurdes et tous les opposants à la politique d'Erdogan et voilà tout ça entraîne des milliers de personnes en prison, des milliers de personnes torturées, enfin voilà, les prisons turques hein, c'est pas très glorieux.
Ouais, voilà. Ouais. Regardez cette soirée sur le site Arte 7 jours sur la Turquie parce que ça nous rappelle aussi pourquoi il faut continuer à résister même dans notre pays où on a l'impression que tout va bien parce que on peut encore dire ce qu'on veut, on a une liberté d'expression et d'opinion. Il faut la protéger.
Ouais, enfin tout le monde l'a pas parce qu'on a vu que les adhérents de la République en Marche, les élus de la République en Marche, n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils veulent.
Oui, ça, on est d'accord. C'est vrai qu'ils sont brimés, mais c'est un autre débat.
Ça, ouais, je veux
dire. Mais là, voilà, nous, on est à cette antenne et on a le droit de dire ce qu'on veut. Ben, je pense qu'il faut continuer à le défendre et c'est pour ça qu'il faut lutter contre le fascisme. Et c'était ces deux reportages, ces deux documentaires nous rappellent ce qui pourrait nous arriver si jamais on n'est pas vigilant et vigilante et pourquoi c'est important de défendre notre liberté, notre démocratie au quotidien et pas juste quand on a un peu peur.
Voilà. Il est 20h08 à la pendule la plus rebelle des radios. On a un petit peu dépassé, mais nous n'avons pas d'émission derrière nous pour cause de vacances. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Normalement, demain, il y aurait encore un 14 juillet. Je sais pas si pour faire Canu Info, mais
C'est pas le 14 juillet qui va les gêner. C'est peut-être qu'ils ont le droit aussi de partir dans un week-end prolongé si c'est les travailleurs et les travailleuses.
Tu veux dire que tu les sens pas aficionados des fêtes républicaines?
Je sais pas. J'hésite. Ouais, on les salue d'ailleurs.
On les salue, mais moi aussi. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier émission.
De la saison.
De l'été, avant l'été. Et on reviendra bien évidemment fin août ou début septembre pour.
Quand on pourra.
Quand on pourra. Mais le plus vite possible, bien évidemment.
Évidemment.
Pour une nouvelle série de Canu Info. En tout cas, on vous dit au revoir, bonne soirée, bon week-end et à la semaine prochaine.
Ciao, bon feu d'artifice.
Ah bon, il y a des feux d'artifice.